Dans notre étude de l'introduction de l'Épître aux Éphésiens, nous avons parlé du plan de Dieu le Père, c'était il y a quelques mois, le plan de Dieu le Père en vertu duquel il a prédestiné ses élus. Nous avons parlé de l'œuvre de Christ qui a sauvé ses élus par le sang de Christ. Il y a quelques semaines, nous avons parlé du Saint-Esprit qui a scellé les élus pour le salut. Nous avons vu que c'était Dieu qui initiait notre salut et que c'était Dieu qui accomplissait le salut pour nous. C'est une œuvre de Dieu et de Dieu seul, selon ces versets. Mais en sachant cela, il est possible que nous soyons tentés, nous les chrétiens, de penser qu'il n'y a rien à faire, rien à ajouter pour le développement de notre vie spirituelle. On se dit, c'est bon, Dieu a déjà tout fait à notre place. Que nous faut-il de plus? On se dit, Dieu est souverain, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous sanctifie, c'est fait, c'est bon. La vie chrétienne, ce n'est pas ma responsabilité. Et j'imagine que s'il était possible de regarder dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre fort intérieur, on y verrait de temps en temps un petit bonhomme très paresseux, qui reste affalé sur un petit canapé en pyjama, qui mange des chips et boit du coca, et qui ne bouge pas, mais il joue à sa petite PlayStation. Il appelle à sa maman pour qu'elle lui apporte encore à manger. J'ai peur que nous tous, nous ayons ce petit bonhomme en nous, parfois. Ce petit bonhomme qui se dit que puisque Dieu a tout fait, eh bien, on est tranquille, on est peinard. Mais Dieu connaît notre cœur et il comprend qu'il y a cette lutte en nous. C'est pourquoi Dieu a inspiré l'apôtre Paul pour qu'il ajoute, juste après son introduction, une prière pour l'église d'Éphèse. Parce qu'en lisant l'introduction, on est tenté de se dire, comme j'ai dit, Dieu a tout fait pour nous, que nous faut-il de plus? Mais dans les versets 15 à 23 de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, nous voyons que Paul prie pour qu'il y ait quelque chose de plus dans deux domaines de la vie de l'Église. Il prie pour une plus grande sagesse. Il parle d'une puissance qui œuvre pour l'Église. Je vous propose donc de lire Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23, et je vais inviter Alex de venir lire ce texte. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Merci Alex pour cette lecture. Avant de continuer, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions d'illuminer les yeux de notre cœur aujourd'hui afin que nous voyions la vérité que tu as révélée par ta grâce. Aide-nous Seigneur à comprendre ce texte et applique-le à notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Avant d'étudier les deux aspects de la prière de l'apôtre Paul dans ce texte, j'attire votre attention vers quelques détails très importants. D'abord, Paul démarre cette prière avec les mots « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Cette transition renvoie à ce qui se passe avant, en fait. Ça se réfère à ce que Paul a déjà dit. En l'occurrence, il fait référence au plan rédempteur de Dieu, tel qu'il a décrit dans les versets 1 à 14. Donc, voici ce que l'apôtre Paul est en train de dire au verset 15. « Vous, l'église d'Éphèse, vous comprenez très bien que Dieu est l'auteur et l'artisan de votre salut, mais malgré cela, vous n'êtes pas paresseux dans votre foi, mais votre vie reflète une bonne réponse à Dieu et à son salut. » Paul se réjouit de la réputation de l'église d'Éphèse. Les membres de cette église bougent dans le bon sens, selon ce texte. Au lieu de se dire « on est sauvé par la grâce, oublions donc le reste, on peut faire comme on veut », ils se disent plutôt « on est sauvé par la grâce ». Répondant donc à Dieu dans la foi et en faisant preuve d'amour pour son Église. Ensuite, Paul dit que cette Église est une grande source de joie pour lui, en précisant qu'il ne cesse de remercier le Seigneur pour ses chrétiens fidèles. Ce ne veut pas dire que Paul ne fait que prier tout le temps, mais ça veut dire que l'Église d'Éphèse est un sujet pour lequel il rend constamment grâce à Dieu. Paul a beaucoup de raisons de se réjouir pour ses amis à Éphèse. Mais malgré toutes les bonnes choses qui se passent dans cette église, Paul ressent quand même le besoin de prier pour quelque chose de plus. Si Dieu a tout fait pour nous, que nous faut-il de plus? Ça, c'est la question. Et selon ce texte, il nous faut encore beaucoup. La première chose pour laquelle Paul prie, c'est une plus grande sagesse. Il demande à Dieu de donner à l'Église plus de connaissances. Il emploie une métaphore au verset 18, quand il demande que Dieu illumine les yeux du cœur des croyants. Ce qu'il demande, c'est une capacité nouvelle à percevoir certaines choses spirituellement. Paul adresse sa demande au Père de gloire. Il choisit exprès ce nom pour Dieu. L'idée de la gloire de Dieu est souvent liée à la puissance de Dieu. On voit ça dans le texte. Sa puissance manifeste sa gloire, notamment quand il ressuscite Jésus d'entre les morts. Le fait que Paul fasse référence à Dieu comme au Père de gloire indique que Dieu, qui est l'objet de la prière, est capable de répondre selon sa puissance. Cette prière n'est pas en vain. Dieu a béni les croyants de façon extraordinaire. Et c'est sûr qu'il veut que les Éphésiens aient encore mieux conscience de ces bénédictions, c'est-à-dire qu'ils aient une plus grande sagesse pour les connaître. Mais remarquez bien que dans ces versets, Paul ne demande pas des nouvelles bénédictions. Il ne demande pas des nouvelles bénédictions pour l'Église. Souvenez-vous que Paul a déjà dit au verset 3 que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Les bénédictions de Dieu ne changent pas, elles sont déjà là. Nous lisons dans l'introduction de l'Épître que Dieu nous a choisis en Christ, qu'il nous a adoptés comme ses enfants en Christ, qu'il nous a révélé son plan pour le monde en Christ. Donc les bénédictions sont déjà là et sont conformes au plan parfait de Dieu. Mais ce que Paul demande à Dieu, c'est une plus grande sagesse, afin d'être plus sensible à ses bénédictions. Ce que Paul demande à Dieu, c'est une compréhension plus grande de ce que ses bénédictions entraînent. Paul rend grâce pour ses bénédictions qui ont été abondamment répandues. Et en même temps, il prie Dieu de donner aux croyants la capacité de connaître la plénitude de ses bénédictions. J'ai lu récemment l'histoire d'une jeune femme dans le nord-est des États-Unis, qui est allé à un vide-grenier et qui a acheté un tableau pour $7. Ce n'était pas un tableau très intéressant, et elle a avoué qu'elle ne l'avait acheté que pour son cadre, qui était plutôt joli. Mais quand elle a montré le tableau à sa mère, celle-ci lui a suggéré de faire examiner ce tableau par un expert. Et quelques jours plus tard, les spécialistes de la Galerie nationale à Washington on annonçait que ce petit tableau était un Renoir authentique, d'une valeur de plus de 100 000 dollars. C'est pas mal, ça. Cette découverte n'a rien changé à la qualité de ce tableau. C'était toujours la même petite image peinte par Auguste Renoir. Mais du fait de cet élément nouveau, c'est-à-dire de cette plus grande sagesse, de cette plus grande connaissance, ce tableau est devenu quelque chose de beaucoup plus apprécié, de beaucoup plus valorisé. De même, Paul prie pour que l'église d'Éphèse apprécie les bénédictions de Dieu avec une plus grande sagesse ou connaissance. Et qu'est-ce que c'est que ces bénédictions? C'est une espérance merveilleuse, c'est un héritage incroyable, c'est la puissance de Dieu qui a accompli le salut de ses élus. En effet, en parlant de ces choses, Paul nous pointe vers l'Évangile et vers le salut que Christ nous a accordé. Chaque chrétien, même ceux qui sont très mûrs dans leur foi, doit chercher à avoir une plus grande connaissance de l'Évangile. L'Évangile est là et on doit le regarder de nouveau chaque jour. Si vous êtes toujours à Lyon d'ici quelques semaines, vous allez vivre la fête des Lumières, un week-end particulier pendant lequel les bâtiments du centre-ville sont tout illuminés. Bien chaque année, alors que les rues de Lyon et les immeubles sont exactement les mêmes que ceux de l'année d'avant, les Lumières, pour moi, attirent mon attention sur des détails que je n'ai jamais remarqué auparavant. Et de la même manière, nous avons besoin de cette lumière qui illumine notre cœur, les yeux de notre cœur, afin de prendre plus profondément conscience de ce que Dieu a fait. Nous sommes tentés d'oublier que nous avons besoin de l'Évangile chaque jour de la vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose que nous acceptons une fois, et puis qu'on oublie ensuite. Quand Paul prie pour les Éphésiens, il prie pour que leur cœur soit illuminé. Paul prie pour que les Éphésiens voient les réalités de l'Évangile plus clairement qu'avant. Et quand Paul a prié pour les Éphésiens, nous devons nous aussi prier les uns pour les autres d'une manière semblable, pour que nous soyons capables de lire et de comprendre la Bible avec une plus grande sagesse, avec une plus grande intelligence, afin de grandir dans notre connaissance de Dieu et dans notre application de l'Évangile. Priez surtout pour ceux qui enseignent dans l'Église. Priez que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation, c'est-à-dire une connaissance de ce que Dieu a révélé en Christ, pour que nous enseignions toujours la vérité de sa parole. Priez afin que vos frères et vos sœurs reconnaissent la valeur de la révélation de Dieu et qu'ils aient soif de la Bible et des promesses qu'elle contient. Que nous faut-il de plus? Notre question pour aujourd'hui. Ce texte nous dit qu'il nous faut une plus grande sagesse, comme on a vu, c'est-à-dire une plus grande connaissance de cet Évangile en vertu duquel nous avons une espérance, un héritage et une puissance en Christ. Et ces trois choses sont mentionnées au verset 19 et 20 dans ce texte. Mais je veux attirer votre attention sur la troisième chose que Paul mentionne, et ça c'est la puissance dans ce texte. Parce que les idées de l'espérance et d'héritage ont déjà été développées dans ce texte. On a vu ça il y a quelques semaines. Et parce que c'est notamment l'application de cette puissance qui est accentuée dans la prière de l'apôtre Paul. Cette puissance est donc la deuxième chose que je veux souligner dans ce texte. Dans la deuxième partie de sa prière, Paul se concentre sur la puissance surabondante de Dieu qui est exercée au profit des croyants. Et par cette puissance divine, Christ est ressuscité d'entre les morts. Et par cette puissance divine, Christ est monté au ciel où il s'est assis à la droite de Dieu. Ce qui veut dire qu'il est dans une position d'autorité et qu'il manifeste aussi sa puissance à travers son règne au-dessus de toute principauté, autorité, puissance et souveraineté, comme on lit dans ce texte. La puissance de Dieu est supérieure à toute autre puissance. Et en fait, cette idée pointe vers la fin de l'Épître, où Paul parlera des armes du chrétien. On va étudier ça en quelques mois. Mais notez bien que cette puissance de Dieu est exercée envers nous qui croyons, c'est-à-dire en notre faveur. Et ça, c'est quelque chose de très important dans ce texte. La différence entre la puissance de Dieu et toute autre puissance est très importante aussi. C'est comme la puissance du soleil comparée à la puissance d'une bougie. Il n'y a pas de comparaison possible. Dieu possède un pouvoir incroyablement plus grand que toutes les puissances du monde réunies. Les versets 20 à 23 nous donnent trois exemples qui montrent comment la puissance de Dieu est exercée pour la gloire de Dieu et au profit des croyants. Le texte nous présente d'abord l'exemple par excellence, à savoir la résurrection de Jésus. Il est évident que le pouvoir de la mort et de la décomposition sont incontestables, n'est-ce pas? La science le prouve. Mais le pouvoir de Dieu s'est montré supérieur. En triomphant de la mort, Jésus a manifesté sa puissance sur la nature. Et ensuite, le deuxième exemple qu'on a nous montre que Dieu exerce sa puissance aussi sur le monde surnaturel. Christ est plus fort que tous les pouvoirs de l'univers, y compris les autorités spirituelles, les principautés et les souverainetés. Et le troisième exemple, enfin, vient couronner le tout, à savoir le fait que Christ est le chef de l'Église. Il règne sur le monde naturel, il règne sur le monde surnaturel. Il a été donné pour chef à l'Église. Le langage employé dans ces versets indique que Christ est la tête et que nous, l'Église, nous sommes son corps. Nous sommes unis à Christ, ce qui veut dire que nous sommes au bénéfice de sa puissance. La puissance de Christ œuvre à notre avantage. Si Christ règne, nous aussi, nous régnons avec lui. Si Christ a vaincu les puissances de ce monde, et même la mort, ça veut dire que nous bénéficions de son œuvre. Christ, la tête, œuvre pour nous son corps, afin d'accomplir le salut dans ce monde. C'est incroyable ce que le corps peut faire si la tête le veut. En ce qui nous concerne, notre tête est parfois prête à abandonner alors que notre corps est capable de continuer. Si vous ne me croyez pas, il faut demander à quelqu'un qui a fait un marathon ou quelque chose comme ça, une activité très physique. Quand on fait une activité comme ça, notre tête doit être convaincue, n'est-ce pas? C'est une question de mental, comme on dit. En principe, votre corps va suivre votre tête. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aussi demander aux femmes qui ont déjà accouché d'un bébé. Pendant la grossesse, elles ne peuvent pas imaginer comment un bébé de 4 kilos peut sortir de leur corps. Mais quand le moment arrive, elles y parviennent. C'est une question de mental. La tête commande au corps. Écoutez bien maintenant, en tant que chrétien, nous avons une tête qui ne se décourage jamais et qui nous conduit parfaitement. Notre tête, Jésus-Christ, veut le bien de son corps, l'Église. Il a le pouvoir d'accomplir son plan. Ce que le texte est en train de dire, c'est que le corps doit maintenant être prêt à faire la volonté de la tête. Vous voyez, il y a une puissance supérieure qui œuvre pour nous. Nous sommes au bénéfice d'une puissance qui va faire grandir l'Église dans ce monde, qui va diriger l'Église dans la foi et dans l'amour, et qui va faire en sorte que les efforts que nous faisons pour comprendre la parole de Dieu et pour transmettre la parole de Dieu ne sont pas en vain. Pour conclure, je vous encourage à prier cette prière de l'apôtre Paul. Remerciez Dieu pour vos frères et vos sœurs en Christ, l'Église. Priez pour que Dieu leur donne une plus grande connaissance, sagesse de sa parole. Priez pour que nous soyons de façon surabondante au bénéfice de la puissance de Dieu qui transforme les individus et les communautés de ce monde, afin que Dieu soit glorifié. Je vous invite à la prière. Seigneur, une fois de plus, nous te remercions pour ta parole. Et nous prions aussi cette prière de l'apôtre Paul, afin que tu sois glorifié par notre foi et par notre amour les uns pour les autres. Nous prions pour que tu illumines notre cœur davantage chaque jour, afin que nous puissions toujours croître dans notre connaissance de ce que tu as fait, de ce que tu fais aujourd'hui et de ce que tu feras par ta grande puissance qui œuvre au profit de l'Église. Au nom de Jésus. Amen.